En fait, moi, je suis venu ici dans le Nord en 1990. Donc, ça fait à peu près 25 ans que je suis ici. Et je suis venu pour travailler pour le bureau de France 2. Au début des années 90, France 2 a créé des correspondants en région et dans le Nord-Pas-de-Calais. Moi, je suis de Bordeaux d'origine. Donc, j'étais journaliste et j'étais plus précisément journaliste reporter d'image, c'est-à-dire caméraman. Mais dans le domaine de l'information, les caméramans ont la carte de journaliste. Et moi, je venais d'être formé. J'avais fait l'IUT de journalisme de Bordeaux assez tard, j'avais déjà 27 ans. C'était un IUT qui recrutait à n'importe quel âge. Et j'ai été formé la première promotion de JRI, de journaliste reporter d'image. Milieu des années 80, 87, 88, c'était le boom de ces métiers-là. L'introduction d'une caméra qui s'appelait la Betacam et qui permettait de faire tout seul. Voilà, donc je suis venu dans le Nord-Pas-de-Calais et on était les correspondants de la région, de la Picardie, voire un peu de la Belgique, en montée jusqu'en Hollande. Alors ça vous montre déjà la petitesse de la région. Quand on n'était qu'une seule équipe, hein, donc vous voyez un peu la région qu'on était censé couvrir. Voilà, et je suis resté 5 ans dans ce bureau de France 2. Et avant, j'avais eu l'occasion de travailler à France 3, notamment France 3 Nord-Pas-de-Calais, dans les plannings de France 3 et aussi à M6. J'avais fait partie d'équipe qui était à la création du premier M6 toute image régional. Et c'était celui de Bordeaux.
Qu'est-ce qui vous a poussé à partir finalement, à claquer la porte?
Alors, je suis arrivé en 90, ça allait encore. Il y avait une rédaction nationale. J'avais été embauché par un gars qui s'appelait Marcel Tria, qui était un journaliste assez célèbre, connu, qui avait notamment été viré de l'ORTF, qui avait travaillé à Lorraine Cœur d'Acier, qui était la radio de lutte de l'ANWI quand il y a eu les restructurations de la métallurgie. Donc, c'était quand même un personnage. Il était au syndicat national des journalistes CGT. Et en 90, 91, ça allait encore. On faisait des choses pas inintéressantes. Et à partir de 91, le processus de dérégulation des médias, qui a commencé au milieu des années 80, s'est accéléré et a gagné le service public d'audiovisuel. En 91-92, on a vu arriver, il y a eu la 5 de Berlusconi, qui a fermé. Et donc, il y a un certain nombre de journalistes sont arrivés à la rédaction de France 2. Et après, il y a eu aussi des gens de la Une qui sont arrivés, notamment Benoît Duquesne, qui est un journaliste qui est mort il n'y a pas longtemps, là, d'une crise cardiaque, qui était célèbre sur France 2. Et tous ces journalistes ont amené des pratiques, je dirais, d'une télé commerciale, des pratiques de cow-boy, adorant le fait divers, mettant le fait divers en avant. Et il y a eu des chefs, il y a eu notamment El Kabach qui a pris la direction de France Télévisions, il y a eu Jean-Luc Manot qui est devenu directeur de l'information sur France 2. Alors Manot, c'était un ancien journaliste qui était rentré en 81 sous le quota du Parti communiste, c'était un ancien de l'Humanité, et il a vite viré, lui. Il est devenu vraiment un bon chien de garde, et notamment il a fini comme conseiller de Sarkozy, là. Et ils ont mis en place ce qui existait peu à peu aussi dans les autres télé. Il y a eu la privatisation de TF1 en 87, hein. Et tout ça a créé, il y a eu la 5 donc, a créé une forme de journalisme avec d'une part la télé qui s'est retrouvée modifiée, hein, et la télé qui est devenue aussi la locomotive de tout le champ médiatique. C'était pas forcément la télé qui, pendant longtemps, qui a été la référence du journalisme, hein. Jusqu'à la fin des années 70, la télé était plutôt très mal vue. C'était la presse écrite, le journal de référence c'était Le Monde, voire la radio, hein, Europe 1, RT. C'était ça la référence du journalisme à la télé. C'était la télé inféodée au pouvoir politique, hein, soit De Gaulle, soit Giscard. Et donc la télé a pas eu une grande période glorieuse de service public. Ça a duré à peu près une petite dizaine d'années, quand Mitterrand est arrivé, et dès 90, 91, 92, ça s'est dégradé. Et là, ça s'est nettement dégradé. C'est-à-dire que faut voir ici quand même, 90, 91, 92, c'est la crise énorme, enfin ce qu'on appelle la crise, c'est le capitalisme, 3,5 millions de chômeurs, les restructurations de partout ici, hein. Des dizaines de milliers de salariés jetés dans la rue. Moi j'ai connu la lignière de Roubaix, il y avait encore à peu près 2000 salariés quand je suis arrivé, et je l'ai vu être disséqué peu à peu à coup de 200, 300, il restait 1700, 500 salariés. Et nous, à côté, ben, on faisait des petits faits divers, des chats écrasés, on allait de plus en plus vite, on faisait des sujets qui se raccourcissaient, hein, c'est ça aussi. Moi, j'ai commencé, on pouvait faire 2 minutes 30, 3 minutes, peu à peu, on faisait 1 minute 30. L'accélération de l'information aussi était importante. Hein. France Info, c'est 87. LCI, c'est 94. Donc, l'accélération du tout info a aussi accéléré le travail des journalistes et l'a dégradé, détérioré vers des sujets de plus en plus faciles, faits divers, rapides à faire. Et voilà, donc ça, j'étais plus d'accord.
Un mot aussi sur le rapport entre, on va dire, la direction parisienne des télévisions et puis la région Nord-Pas-de-Calais. Hein. La région Nord-Pas-de-Calais, c'est un peu le réservoir à faits divers. Et puis, un peu, si on veut des pauvres, on va voir dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est ça ?
Oui, alors ça, c'est vraiment, oui, tout à fait. Ça faisait partie du phénomène. C'est qu'une une information aussi simpliste, mal faite, rapide, va être de plus en plus, va simplifier. Enfin, simplifié, caricaturé. Le Nord, c'est l'alcool et les faits divers crades. La Bretagne, c'est l'alcool. Enfin bon, c'était comme ça. Et quand ils nous disaient, les chefs à Paris, quand on veut une information bien crade, on pense à vous dans le Nord. Une fois, par exemple, juste une petite anecdote, il y avait eu un pic, 70 à 80 personnes qui étaient allées aux urgences, au CHU, dues à une intoxication au CO2. Ce qui est relativement pas fréquent, mais qui arrive un peu régulièrement dans cette région. Paris nous a téléphoné tout de suite en disant « Voilà, vous nous faites les corons, la misère, etc. » Donc nous, on arrive au CHU, on tombe sur le chef de service qui nous dit « Vous plaisantez, j'espère. Venez voir. Moi, j'ai que des classes moyennes, des enseignants, etc. » Parce qu'il y a une tradition dans la région, encore dans les années 90, de se chauffer au charbon, mais avec des poêles à charbon nouveaux, hein, comme un peu le poêle à bois moderne, il y a le poêle à charbon moderne, c'est une tradition. Et c'est pas du tout à cause de la misère, mais plutôt dû à des phénomènes. Les maisons sont de plus en plus protégées, calfeutrées, et donc du coup, l'air circule moins bien, enfin, il y a moins les portes branlantes, comme dans les corons, à la limite. Et c'est un phénomène météorologique qui fait qu'il y a un anticyclone, la plupart du temps, en hiver, il y a le plafond qui est bas, les poêles tirent moins bien, et ça crée peut-être des intoxications au CO2. Il nous dit, mais ça n'a rien à voir avec la misère. On téléphone à Paris, les mecs, ils veulent rien savoir. Ils disent, non, vous nous faites les corons. Enfin, voilà, c'était vraiment cette image-là, dure, violente. Et quand moi, je voyais le ravage économique de cette région, ça m'énervait d'autant plus. Vous savez, il y a eu cette fameuse banderole qui a été brandie par les supporters du Paris Saint-Germain quand il y a eu la finale de la Coupe de la Ligue, Lens Paris Saint-Germain. Et c'était alcoolique, chômeur, consanguin, bienvenue chez Echti. Ben en fait, bien sûr que les supporters du Paris Saint-Germain sont des cons, mais qui leur a tenu la plume pour écrire ça ? Vous pensez que les supporters du Paris Saint-Germain auraient écrit ça de l'équipe de Bordeaux, ou des supporters de Bordeaux, des supporters de Clermont ou de Nantes ? Non, bien sûr. C'est parce qu'il y a eu une succession de sujets, de reportages, de visions du Nord. Hein. Outreau, par exemple, ça a été vraiment ça, révélateur. Moi, j'ai beaucoup travaillé l'affaire Outreau, parce que si j'avais été en place, je me laisserais taper, moi, l'affaire Outreau. Et j'aurais peut-être pas fait mieux, en tout cas, on ne nous aurait pas demandé de faire mieux que les collègues, et heureusement que je suis parti avant. Et l'affaire Outreau, c'était vraiment... Il y a eu des papiers, mais c'était l'horreur. C'était un racisme de classe anti-Nord. Ça donnait alcoolisme, chômage, l'inceste n'est jamais très loin. Enfin bon, c'est ça, c'était des papiers comme ça. On a une séquence dans la Nouveau Chien de Garde, justement, de l'abbé Veil, qui raconte, qui lit des extraits de journaux. Voilà, donc ça, il y avait effectivement tout ça. Mais en fait, c'est quoi ? C'est un racisme anti-classe, mais c'est une haine anti-ouvrière. C'est le racisme des bourgeois contre les ouvriers et les prolos. Enfin, c'est flagrant. Et ça, c'était dur. Donc moi, je suis parti en ne voulant pas partir comme ça. On a écrit un bouquin qui s'appelle « Journaliste au quotidien » avec le sociologue qui s'appelle Alain Accardo, qui avait été mon sociologue à l'IUT Journalisme. On avait des cours de lui, c'est un bourdieusien vraiment, vraiment formidable. Ça a été un peu mon maître à penser. Il nous a vraiment aidé, ceux qui étaient d'accord avec lui, bien entendu. Ceux qui avaient déjà des interrogations sur ce métier de journaliste, ceux qui ne voulaient pas être des cow-boys à foncer. Et on a écrit un bouquin qui est sorti dans les années 96 et qui est peut-être un des premiers bouquins de critique des médias, bien avant même sur la télévision de Bourdieu ou les Nouveaux Chiens de Garde de Serge Halimi. Moi, je racontais, entre autres, pendant 3 mois, un témoignage du bureau de France 2 et comment on nous faisait travailler, qu'est-ce qu'on nous demandait, etc.